Actuellement, nous sommes avec les étudiants sur Nantes. Nous paralysons l'entrée de Nantes, c'est-à-dire tous les axes stratégiques sont bloqués. Et là, il est exactement 7h30 du matin. Nous sommes le 30 mars et ça donne une belle pagaille sur toute l'entrée de Nantes, c'est-à-dire le pont de Bellevue. Tous les axes stratégiques sont bloqués. À plus.
Allô, là-bas qui j'y suis, c'est Jonathan, à Pont-Sully, au lycée Joseph Lotte. Ça fait 3 jours qu'on est en blocage et ça se passe super bien. Et là, c'est en train de partir en fessier, c'est vraiment super sympa. Et les gendarmes n'interviennent pas parce qu'on bloque notre lycée. Et malgré ce qu'a dit Monsieur de Robien, eh ben, il n'est pas question qu'on lâche prise. Donc le CPE ne sera pas retiré. Voilà, et ben bon après-midi, salut.
Salut, à Marseille et Aix, on a bloqué les routes aujourd'hui. Et surtout, on a bloqué la seconde gare de France, en fait, celle de Marseille. Les CRS nous ont gazé 4 fois et nous, on a résisté à peu près tout le temps par des méthodes non violentes. En hurlant moins de CRS, plus de caresses, démission Villepin et Sarko. Ça a été vraiment une super détermination, ressemblant à celle des faucheurs volontaires. Il y avait des enseignants, il y avait des profs, il y avait des mecs de la CGT. Il y avait vraiment de tout et ça a été une super action. Voilà, salut.
Salut Daniel, je viens pousser un coup de gueule pour tous ces gens qui nous expliquent qu'une certaine flexibilité n'est pas forcément mauvaise si cela permet aux salariés de retrouver un emploi le lendemain. Y compris Ségolène Royal ce matin sur France Inter, qui n'a d'ailleurs même pas été capable de répondre à une auditrice et de lui dire ce qu'elle pensait du contrat nouvelle embauche. Mon mari a toujours travaillé en intérim. Ça fait 12 ans que ça dure. Et je crois qu'il faut que ce soit nous, les chômeurs et les intérimaires de toute nature, qui expliquions à ces gens-là ce que c'est que la flexibilité. La flexibilité, c'est travailler toute sa vie sans le moindre contrat, avec à la fin de la semaine seulement le compte-rendu de ses heures. C'est être pris, jeté, repris, jeté à nouveau, etc. par une même ou plusieurs entreprises. Je voudrais dire à ces gens du social, entre guillemets, qui se réveillent le matin en se demandant comment mieux faire marcher leur entreprise, que je leur souhaite d'être traités de la même manière pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans aucun respect, dans l'anonymat le plus absolu, et de comprendre enfin ce que veut dire le mot flexibilité. Heureusement, je suis persuadée que le mépris se paye un jour. J'ai entendu je ne sais plus quel homme politique nous dire récemment que ce n'était pas les entreprises qui marchent bien, qui avaient besoin de licencier. Je pense que ce monsieur doit être aveugle et sourd. Allez les jeunes, le pays a encore de quoi être fier de vous et vos aînés peuvent pleurer d'avoir si peu réclamé leur dignité.
Vraiment, je suis super contente que enfin un média laisse parler les soi-disant casseurs, entre guillemets. Bravo, alors là je vous félicite, c'est vraiment super. Moi j'ai 42 ans, j'ai la chance d'avoir obtenu au bout de 6 ans de CDD un CDI à la poste. J'ai quand même, je suis allée à toutes les manifs, là, j'aurai 4 jours de paye en moins sur mon super salaire. Mais bon, comme j'étais habituée avant, j'ai vécu plus de 10 ans en gagnant des 600 euros par mois, en vivant avec un enfant. Donc, j'ai l'habitude des restrictions. Donc, ça me dérange pas. Et je suis très contente d'avoir entendu des jeunes gueuler, UMP, enculés. Bon, comme j'habite en super campagne à la Corrèze, la manif était à Tulle. Mais enfin, d'après la police, 5000 manifestants. Voilà, pour une petite ville comme Tulle, c'est pas mal. Les jeunes, je les ai sentis bien, comment dire, comme il faut. Mais là, je suis trop contente de vous entendre interviewer des soi-disant casseurs. Et que moi, si j'étais à leur place, mais je crois que je serais même pire. Donc, et surtout à la télé, on voit toujours les mêmes images. Il y en a 3 qui cassent une vitrine. Tu vas la voir. Tu vas voir ça au JT pendant toute la semaine. Les mêmes, hein. Même s'il y a eu 4 manifs, tu vois, les mêmes. Mêmes images. Alors vraiment, bravo, je vous remercie beaucoup. Mardi prochain, s'il y a encore manif, qu'ils ont pas retiré le CPE, j'irai encore une fois. Et puis là, je ferai mon reportable à Tulle. Et je vous remercie, je vous embrasse.
Bonjour, c'est Claire de Balagny-sur-Thérain dans l'Oise. Je suis allée à la manifestation à Creil dans l'Oise ce mardi 28 mars. Et pour confirmer un petit peu ce que les syndicalistes disaient sur les flics, Nous avons entendu un flic à côté de nous qui était en tenue de travail, hein, qui était là pour faire le service d'ordre, et qui disait à son collègue « J'aimerais bien que ça se barre en couille, j'adore ça ». Voilà l'attitude des gens qui doivent faire le service d'ordre. Voilà. Bonne soirée à tous.
Salut Daniel Mermet, toute l'équipe. Je vous appelle en fait pour réagir au dernier quart d'heure de l'émission. J'ai pris l'émission en cours, donc le dernier quart d'heure. Donc si j'ai bien compris, la parole était donnée donc au fameux casseur donc que l'on peut voir dans les différentes manifestations de ces derniers temps. Donc en fait, j'imagine que les réactions doivent être très nombreuses. Moi, je me permets de téléphoner. Enfin, c'est une réaction parmi d'autres. Voilà, moi, je suis policier, donc je me suis un peu non pas senti obligé d'intervenir, mais simplement de dire que. Ben moi j'étais dans la manifestation dans une ville de province dont je tairai le nom. J'étais là parmi les manifestants et donc à réclamer effectivement le retrait du CPE comme des milliers de manifestants, de jeunes, de retraités et de salariés. Donc je me sens concerné. Effectivement mon statut de fonctionnaire m'assure pour l'instant la sécurité. Mais je me sens tout à fait concerné, conscient des problèmes, des enjeux politiques, des luttes de pouvoir, etc. Et que effectivement la police. Quel est le rôle de la police actuellement? C'est une grande question. C'est les questions que je me pose. Moi, j'essaie au quotidien d'assurer des missions de service public, d'assurer la protection de mes concitoyens et puis de faire mon métier le plus humainement possible. Et effectivement, actuellement, je me pose beaucoup de questions. Quel est le rôle de la police? Mais sachez que nous réfléchissons, nous sommes quelques-uns à réfléchir. Voilà, j'ai écouté attentivement les propos de ces gars-là et que effectivement il y a de la colère, mais la colère, faut-il peut-être la transformer, quoi. Voilà. Voilà, merci à tous.
Il est bien, il est bien, le flic, le policier qui résonne et qui dit voilà, il faut transformer cette colère en quoi. C'était formidable, hein. C'était la suite évidemment au message précédent de la petite dame qui a entendu dans le train des policiers dire on aimerait bien que ça se barre en couille. On l'a remarqué dans sa façon de prononcer qu'elle n'a pas tellement l'habitude de dire partir en couille. Là, cette auditrice. Voilà, que serait la France hein, sans le répondeur de la base, si j'y suis, hein, ce serait vraiment le déclin, ce serait vraiment la décadence si on n'avait pas tous les jours ce génial et modeste répondeur grâce à vous. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que évidemment, on aimerait avoir les coordonnées de ce policier s'il m'écoute aujourd'hui, qu'il soit gentil de nous laisser son téléphone. Je doute s'il nous laisse qu'on puisse faire une émission, qu'on puisse l'interviewer, parce qu'évidemment, il y a des obligations, mais il y en a qui passent outre. Il y a des auditeurs et des auditrices qui passent outre à ces obligations, qui passent outre et qui finalement finissent par dire ce qu'ils ont sur le cœur ou bien faire partager le fruit de leur expérience. Et ça a été le cas d'une auditrice, c'était le 13 septembre dernier. Écoutez le message qu'elle avait laissé sur le répondeur.
J'appelle au sujet de la baisse du chômage. Je travaille à la NPE, vous comprendrez pourquoi je ne donne pas mon prénom. Je sais pourquoi le chômage baisse, parce que quand on envoie des convocations à des jeunes qui ne touchent pas un rond d'ACEDIC et qu'on envoie ces convoques en juillet et en août, à des jeunes qui savent très bien qu'on n'a aucune chance de leur filer la queue du quart d'un boulot correct, évidemment les jeunes ne se déplacent pas et évidemment c'est très facile de les radier. Il faut savoir que là, on a une pression de plus en plus forte sur le personnel de la NPE pour procéder à des radiations pour recherche d'emploi insuffisante. On le fait pas tous, heureusement, mais la pression devient insupportable. Le problème, c'est que nous, conseillers à NPE, on fera rien sans vous. Donc, les chômeurs, si vous vous bougez pas, nous, on peut rien faire. On en est réduit, nous, à susciter des manifs qui nous empêcheraient, qui parviendraient à nous empêcher de mener à bien les actions dégueulasses qu'on nous demande de faire. Je sais pas si vous réalisez le truc. Voilà, donc merci de venir nous prêter main forte, parce que on n'a pas spécialement envie de venir grossir les rangs des chômeurs, puisqu'en général, on est comme vous, on est passé par là. Et maintenant qu'on a un petit salaire un tout petit peu décent, on essaye de le garder, mais je vous assure que de notre côté à nous, c'est pas très simple. La schizophrénie règne. Allez, alors à bientôt, dans les manifs ou ailleurs. Ciao. Ciao.
Voilà, c'était le 13 septembre, on l'a appelé aussitôt, cette auditrice, parce que... Non, on lui a demandé qu'elle laisse son message, son téléphone. Elle a rappelé, elle a laissé son téléphone, on l'a appelé, on est allé la voir. C'est Olivia Gesbert qui est allée la voir, et on a fait une émission qui est passée, je crois, le 15 septembre, et qui vous avait beaucoup frappé. Il y a eu des suites à ça. Ensuite, Canal Plus nous a demandé les coordonnées de cette jeune femme. Et puis ensuite, ça a fait boule de neige. Aujourd'hui, sous le nom de Fabienne Brutus, qui est son vrai nom. Mais à l'époque, il n'était pas question qu'elle donne son vrai nom, pour des raisons personnelles, pour des raisons aussi de boulot. Elle avait peur de se faire virer. Mais sous le nom de Fabienne Brutus, elle sort un bouquin qui s'appelle « Chômage, des secrets bien gardés ». Du chômage, des secrets bien gardés, ça sent le titre de l'éditeur qui va absolument vous alpaguer, vous accrocher. N'empêche que c'est excellent et elle est partout. Vous l'avez vu en télé, dans les émissions de variété ou dans les émissions où on en fait des invités comme ça. Et c'est très intéressant. Son message est très très intéressant. On s'aperçoit, on le savait déjà, mais tout d'un coup, eh bien, ça devient vrai puisqu'elle le dit, puisqu'elle est conseillère de la NPE. La NPE reçoit des consignes pour ben voilà, pour faire diminuer ce fameux chiffre de chômage. On va la voir, je crois, dans les jours qui viennent, et on va à nouveau discuter et dire voilà, ça a baissé de temps, mais c'est le chiffre du chômage qui baisse, non pas le nombre réel de chômeurs. Elle va vous expliquer ça longuement. Voilà à quoi sert quelquefois le répondeur de là-bas si j'y suis.
Allô, oui, bonjour, Daniel Merveille, à toute l'équipe, Ayette Thomasson de Lyon. Donc, j'étais hier avec mon mari à la manifestation, donc, à Lyon. Donc, je suis dans le secteur privé, mon mari est contractuel, lui, dans le secteur public. Et donc, moi, je voulais d'abord vous remercier pour l'émission de ce soir et vous dire que moi, je refuse qu'on nous sépare, hein, qu'on parle de casseurs. Moi, je sens que le mouvement, il est unitaire et qu'on veut absolument qu'on ait une conscience. Il y a des méchants qui viennent tout détruire et tout ça. Je trouve ça d'une stupidité. Moi, je me sens concernée, je me sens solidaire. Je sais qu'il y a une misère, je sais qu'il y a une souffrance. Et venir comme ça les dénoncer et nous séparer, ça me semble, je peux en rajouter. Voilà.
Bonjour Daniel Mermet, c'est Sylvine de la Garenne-Colombe. Alors voilà, c'est pour répondre à la petite dame de 29 ans qui est pour le CNE. Alors voilà, moi j'ai eu une réunion syndicale hier et il y a une dame qui est au prud'homme de Nanterre. Il y a plus de 100 dossiers de CNE avec des licenciements abusifs. Voilà, merci, au revoir.
Je voulais vous dire, je suis comptable, donc dans un cabinet, j'ai fait donc des payes pour des entreprises, et je peux vous assurer que les entreprises que je connais ne voient qu'un truc, c'est virer tout simplement et ne plus avoir à faire les procédures de licenciement qui, ils sont vrais, sont un peu lourdes à leurs yeux. Voilà, bonne journée, ciao.
Eh bien, bonjour, c'est le repère de là-bas si j'y suis, de Tonquédec dans les Côtes d'Armor, pour dire que jeudi soir, à partir de 20h, on continue la manif contre le CPE au Café de Bretagne, donc lieu habituel du repère des amis de là-bas si j'y suis, à Tonquédec, à partir de 20h, à Tonquédec, route de Bullien, voilà.
Bonjour, je suis Ginette de Montreuil-sous-Bois. Voilà, à propos du CPE, contrat première embauche, ce que nos gouvernements ne disent pas, et bien entendu ce que les chaînes médiatiques ne dévoileront pas, le garde des Sceaux a adressé par circulaire administrative des consignes aux procureurs généraux des cours d'appel, les consignes suivantes. La première, les informer de tous les dossiers, c'est-à-dire tous les litiges juridiques déjà existants et présentés en cours d'appel, en indiquant tous les moyens de droit soulevés par les défenseurs de la partie salariale. Bon, deuxième consigne, de procéder le plus souvent possible lors des audiences à un rappel à la loi sur le CPE en rappelant aux conseillers au prud'homme de ne sanctionner les employeurs qu'en cas de volonté de nuire aux salariés, de légèreté blâmable ou d'abus dans l'exercice du droit de résiliation du contrat. De plus, les parquets sont encouragés à rappeler que le doute ne saurait profiter aux salariés. Enfin, il est clairement notifié au parquet, au cas où les conseils de prud'homme n'auraient pas suffisamment compris le message dispensé par le ministère de la Justice, de former appel, et ce, même si aucune des deux parties, c'est-à-dire le salarié et l'employeur, n'en a ému le souhait. À tous les auditeurs non encore convaincus par le caractère très nocif de ce CPE, sachez que le gouvernement Chirac nous trompe en prétextant que ce contrat est dans l'intérêt des jeunes. Cette circulaire administrative prouve bien que la justice Chirac donne l'ordre de limiter les risques de condamnation des employeurs, que la justice Chirac donne l'ordre de passer outre des décisions des prud'hommes chargés de faire respecter le Code du travail. Ce CPE, s'il est maintenu, sera la porte grande ouverte à beaucoup de dangers, à commencer par la justice salariale.
Bon, salut Daniel et à toute l'équipe de Là-bas si j'y suis. Bon ben voilà, pour moi c'est terminé, l'émission Là-bas si j'y suis, car comme je suis coursier moto et auto l'après-midi, j'ai eu cette chance d'avoir pu écouter cette émission pendant 2 ans. Maintenant, tout se prend en moto, donc salut les voyages et la connaissance des autres peuples, ainsi que toutes les explications sur comment s'est fait rouer dans la farine, libéralisme, privatisation, etc. Enfin maintenant, j'ai un autre regard sur l'info. Arnaque, et puis à 42 piges, il était temps que je fasse ma première manif contre la privatisation EDF, et puis mardi prochain, j'y retourne, car je suis quand même sévèrement concerné par ce contrat nouvelle arnaque. J'ai une fille de 5 ans, et je suis très inquiet pour son avenir. Alors mardi, même si c'est pendant ma pause de 13h30 à 15h15, j'irai à la manif soutenir tous les jeunes qui se battent mine de rien pour le futur de ma fille. Et puis, les gars, comme l'a dit un auditeur, on les aura. Allez, salut Daniel et à toute l'équipe de Là-bas si j'y suis. Beaucoup de regrets hein, quand même, hein, parce que vraiment, vraiment bien. J'étais pas d'accord évidemment sur tout, mais ça c'est normal. Mais fort, fort. Allez, salut et puis continuez bien comme ça. C'était William de Paris. Ciao, bye.
Ah, c'est vrai qu'on redoute le plein emploi là-bas si j'y suis. On perdrait pas mal d'auditeurs, mais enfin, on préférerait ça quand même à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Merci à cette auditrice qui n'a pas donné son numéro, qui s'appelle Ginette, sur ses précisions juridiques très très précieuses. Vous pourrez réécouter parce que c'est quand même c'est un langage auquel on n'est pas toujours dont on n'est pas toujours coutumier sur Radio France en tapant France Inter. Vous pouvez pendant 24 heures réécouter cette émission et donc ces messages. Donc là on va retrouver Marie alias ou plutôt Fabienne Brutus alias Marie, cette conseillère de la NPE. Elle disait dans son message, elle parlait de schizophrénie. Et oui, on est tous dans cette schizophrénie de pas savoir si on collabore ou si on résiste. Il n'y a pas de véritables résistants qui peuvent aujourd'hui prétendre se battre tout seul contre le système. Et il n'y a pas non plus de collabo absolu qui se couche totalement devant le système. On le voit aujourd'hui à travers cette France qui se ressaisit et qui résiste bel et bien. On peut pas passer tous les messages que vous laissez sur ce répondeur, mais on a vraiment, je peux vous garantir, qu'on a le sentiment, on comprend ce qu'on appelle une lame de fond. C'est une lame de fond actuellement qui agite ce pays. On retrouve Marie, Fabienne, après ce petit bouquet de messages. Je rappelle le numéro du répondeur, mais vous le saviez déjà, c'est 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est Florence de Strasbourg. Alors, c'est pour annoncer la date du prochain repère. Donc, samedi 1er avril, non, c'est pas une blague, c'est sérieux, on se réunit vraiment le samedi 1er avril, donc à 15h au bar La Hache, rue de l'Ancienne Douane à Strasbourg. Alors, venez nombreux parce qu'on va parler du CPE et ça va chauffer. Alors, venez très très nombreux, samedi 1er avril, 15h au bar La Hache à Strasbourg. Au revoir.
Salut, c'est Régis. Bah écoute, moi j'entends que tu dis que c'est un moment merveilleux qui s'est passé mardi. On est mercredi 29, donc je suis pas forcément d'accord, même pas du tout. Donc il y a bien plus de Français qui sont d'accord avec le CPE, ou au moins qui pensent que le CPE est un moyen d'essayer de lutter contre la précarité et donner de l'emploi aux jeunes. Donc c'est pas forcément le cas de ce que la gauche propose où personne ne fait rien. Donc on gueule tous après de Villepin, disons vous gueulez tous après de Villepin, il y a des troupeaux de connards qui font grève, ils sont simplement entre 1 et 3 millions, il y a tout le reste des Français qui sont derrière et qui pensent que de Villepin a raison. Donc de Villepin, il n'est pas comme Sarkozy, qui est simplement opportuniste, et Sarkozy n'attend qu'une chose, d'être en politique et d'être au présidentiel de 2007. Donc voilà, bon bah vous êtes tous en train de gueuler comme des veaux, vous êtes contents de faire passer la France pour un pays de merde, et c'est vrai que c'est avec des gens comme ça, ce n'est qu'un pays de merde, avec tous ces fonctionnaires. Donc je m'attends pas à ce que tu passes mon message, mais au moins ça fait du bien de le dire.
Bonjour Daniel, ici Marilyn, je suis juriste dans une institution européenne à Luxembourg. Je voulais vous téléphoner pour ce que j'entends à propos du CPE tous ces jours-ci. Ce que l'on oublie de dire, c'est que toutes ces mesures découlent directement du Conseil européen de Lisbonne en mars 2000, auquel la France était partie prenante par le truchement conjugué de M. Chirac et Jospin. Ce Conseil européen spécialement consacré à l'emploi avait décidé dès mars 2000 une libéralisation pour créer davantage d'emplois pour les services. Et on a eu la directive Bolkestein. Il avait décidé la prolongation de la vie active et du travail des plus âgés, ainsi que la réforme des pensions. On a le contrat CNE, on a eu la réforme des retraites. Il avait décidé également l'organisation des administrations du travail, la réforme pour la NPE couplée à la CEDIC va venir, la réforme des contrats de travail pour les plus jeunes, on l'a maintenant, le CPE. Je suis tout à fait surprise et estomaquée de voir que des socialistes, qui sont en réalité de sociodémocrates, peuvent vitupérer contre ce projet, étant donné qu'en 2005, on a eu la stratégie revisitée de Lisbonne, où ce processus a été augmenté avec les 10 pays nouvellement entrés et qui maintenant, évidemment, s'aggrave puisque, par exemple, la Slovénie, la santé et l'éducation sont complètement privatisées. Voilà ce que je tenais à vous dire. Merci pour vos émissions. À bientôt.
Oui, simplement pour demander quand est-ce que Daniel Mermet va être viré de France Inter. Parce qu'un gauchiste comme lui, ça n'a rien à faire là. Voilà. Allez, c'est LG de Paimpol.
Vendredi, 15h07. Vous avez candidaté le 7 septembre sur l'offre de technicien-technicienne de maintenance en informatique, numéro 72-23-69E. Votre candidature n'a pas été retenue car votre formation ne correspond pas à celle souhaitée par l'entreprise. La NPE étudiera avec attention toute nouvelle candidature que vous enverrez sur d'autres offres. La NPE vous remercie. La NPE vous remercie de votre attention.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Olivia Gesbert, Marie, ANPE.
Flight number 2, arriving from...
Bonjour. Alors moi, je viens pour un contrat qui marche pas, je viens pour tout ça, quoi.
Bien.
Non, mais c'est vrai, tous les jours, je suis chez vous, ça me saoule.
Contrat de calife, hein. Vous avez
non, mais avec... arrêtez de lire contrat de calife, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et moi, j'ai le 7, je commence ma formation qui est financée, qui n'est pas financée parce que j'ai 30 ans. Et ça commence à me... Hein, il n'y a rien pour les 30 ans.
Qu'est-ce qui vous a suivi, là?
C'est tout le monde. C'est tout le monde.
Aide de cuisine, bon, grillada, Saturday, c'est ça?
Je maintiens le...
Le poste.
La recherche.
Je cherche toujours des bons vendeurs, hein. Il n'y a pas de problème. Malheureusement, c'est...
D'accord. Vous en recherchez un ou...
Non, il faut plusieurs.
Ah, il vous en faut plusieurs.
Le 13 septembre dernier, d'accord, vous nous avez laissé un message sur le répondeur et vous êtes conseillère à la NPE. Mais dans ce message, vous poussiez un coup de gueule. Vous disiez qu'on vous poussait à faire des actions dégueulasses.
Ce message à ce moment-là, parce que j'ai entendu sur une radio que vous connaissez bien les chiffres du chômage. Et donc, c'était plutôt bon. Le chômage baissait, donc tout le monde était ravi. En haut lieu notamment, et moi ça m'a fait bondir parce que les chiffres du chômage baissent à cause des radiations, ça a toujours été le cas depuis quelques années, mais là il y a quand même, la machine s'emballe quoi, la machine elle s'affole un peu et ça baisse de plus en plus sur toutes les catégories de public, on s'arrange pour que les gens soient bien rangés dans des petites cases et surtout pas la case qui compte dans les chiffres du chômage. Donc ça m'a agacé pas mal, je dois dire.
C'est le quatrième mois consécutif de baisse et le taux de chômage repasse en dessous du seuil symbolique de 10%, ce qui ne s'était pas produit depuis 2 ans. On est à 9,9%.
Moi, j'ai commencé à bosser à la NPE parce que j'étais au chômage, hein. Et c'est quand même le cas de pas mal de conseillers maintenant. C'est vrai que sur les nouvelles promotions de conseillers, bon, bah, le marché du travail étant ce qu'il est, on est nombreuses à être passées par une période de chômage. Donc, à force d'aller à la NPE et de pas y trouver le métier initial qui était le mien, Eh bien, j'ai vu une annonce, recrute conseiller. Je me suis dit, tiens, dans le fond, conduite d'entretien, machin, ça peut le faire, ça colle un peu à ma formation initiale. Je m'étais dit que peut-être ça allait être rude, hein, pour être très franche. Je me suis dit, ayant vu de l'extérieur ce que ça donnait, peut-être que de l'intérieur, je vais souffrir. De l'extérieur, ben, j'avais vu que quand tu viens et que tu attends environ 2 heures, tu es reçu par quelqu'un qui est pas forcément super souriant et qui te propose pas forcément grand-chose et même souvent rien. En fait, quand j'étais demandeuse d'emploi, j'ai sollicité des boulots qui n'étaient pas, que j'ai pas trouvé, et des formations qu'on m'a pas financées. Donc forcément, le ressenti, il est pas terrible. Tu restes 9 mois au chômage et puis tu te dis bon bah finalement j'y suis allée. Moi je faisais partie des gens qui y allaient quand même relativement souvent. Et puis bon, forcé de constater que j'avais pas l'impression que ça débouchait sur grand chose.
Là vous avez donc décidé de passer donc de l'autre côté de la barrière.
Alors il y a une formation pour devenir conseiller ANPE. Et cette formation moi j'ai trouvé très intéressante parce que beaucoup de psychos, beaucoup de sociaux. On a eu jusqu'à nous diffuser les documentaires de Gilles Balbastre sur les souffrances, sur le lieu de travail, etc. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Et alors le maître mot, c'est il faut que vous contractualisiez. Quel est le mot? Ils emploient un mot. Voilà, il faut remporter l'adhésion du demandeur d'emploi. Ce qui veut dire tu l'as convaincu que ce que tu proposes c'est une solution pour lui et ça va aller mieux pour lui grâce à ça. Et en fait, quand tu forte cette expérience-là, quand tu arrives dans une ANPE, tu t'empresses d'oublier tout ce que tu as vu et tu t'empresses de faire un peu l'inverse. Maintenant, on ne propose absolument pas, on impose. On impose aux gens des boulots, des formations, des stages parking, des stages à moitié bidon. On n'est plus du tout dans la proposition, on est dans la contrainte. Et par contre, on continue à former les conseillers ANPE pour qu'ils remportent l'adhésion du demandeur d'emploi. Je comprends pas. Bah, arriver là-bas, c'est pas vraiment le choc, c'est la confirmation peut-être des craintes. C'est ah bah oui, bah oui, voilà. Et puis bon, comme mine de rien, un salaire qui tombe tous les mois, bah ça surprend, c'est vachement agréable quand même, je dois dire. Hein. C'est vrai que c'est pas qu'on gagne des milliers d'essences, je crois que je peux le dire. On doit gagner 1 200 euros, je pense, net, temps plein, ça doit faire ça. Il faut voir aussi qu'au niveau des primes, ça se fait un aparté. Il y a un système de rémunération qui est à la part variable. Et cette part variable en plus, qui permet d'avoir du pognon en plus tous les, je sais plus, 6 mois, elle est donnée par le directeur d'agence. Et le directeur, s'il a, je sais pas, 50 agents, eh ben, il a évidemment pas autant de parts. Donc il doit les enlever à quelqu'un au motif qu'il a pas bien travaillé, pour les donner à quelqu'un d'autre au motif qu'il a particulièrement bien travaillé. Ça génère une ambiance extraordinaire au moment de l'attribution des parts. C'est vraiment bien.
Alors,
vous l'avez eu?
Oui.
Non, c'est vrai en plus.
Des personnes qui ne sont pas clients, qui peuvent être ARDC ou pas, et qui seraient éventuellement candidates ou candidats pour assurer ce tutorat, peuvent être associées.
Mais néanmoins...
Parce qu'il
faire
nous en
le
manque
choix
un.
D'être tuteur dans le cadre donc du déploiement de Géode, hein? Non, c'est bah, possible pour bah, l'un
ou l'autre. On ne sait pas ce que c'est.
C'est toujours la maison, ça. On ne sait pas ce que c'est. On va nous demander éventuellement de tutorer. Oh non, mais ça me.
Non, mais si on sait ce que c'est.
Mais non, mais c'est pas vrai, ça. Non, mais on ne sait pas.
Extrait du documentaire L'Agence, on voit le clivage des langues entre les salariés, les conseillers de l'ANPE et le Pékin qui a le malheur d'être privé brusquement d'emploi quand il arrive ici. Comment peut-il comprendre ce langage? C'est pourtant ce langage que doit pratiquer cette langue de bois, que doit pratiquer une conseillère comme Marie qui s'est confiée à nous.
Une journée type, eh ben, je vais peut-être en faire bondir certains, mais c'est beaucoup l'urgence. C'est beaucoup courir et c'est un rythme de travail qui est souvent intensif. Ça veut dire démarrer à 8h15, ça veut dire avoir une foule de gens qui déjà se pressent au portillon, des gens dont on sait que ce sont des humains comme toi, comme moi, avec des questions qui sont des problèmes, parce qu'on travaille sur de l'humain, on travaille pas avec des codes-barres ou... Mais il faut savoir qu'on a, quoi, 10 minutes pour traiter le problème en question. On navigue du boulot d'assistante sociale au boulot de contrôleur, puisque c'est maintenant des choses qu'on nous demande. Il y a aussi une partie du boulot qui consiste à la fermer quand quelqu'un vous dit « je vais recruter une femme de ménage, mais je vais la prendre d'abord en stage pour voir si elle s'est bien nettoyée », alors que vous lui en avez déjà envoyé 10 et qu'a priori ce sont des gens qui sont expérimentés. Voilà. Il y a toute cette partie-là qui peut être aussi difficile à vivre pour un agent ANPE. Je pense qu'il y a de plus en plus de conseillers ANPE qui sont en souffrance dans leur travail, à cause des cadences qu'on leur impose et qui rendent impossible tout entretien réel avec le demandeur d'emploi et toute espèce d'assistance, d'aide et ce qui était le cœur de notre métier à la base, quoi, d'emmener les gens vers, si ce n'est pas l'emploi, au moins vers quelque chose qui s'en approche, quoi.
J'ai une DE qui veut monter un dossier ACRE, mais elle sait plus si elle touche l'AH ou la SS. Elle doit aller à la fois pour sa VAE.
Je lui fais une ARAF.
Il y a tout un vocable aussi dans les agences, non? J'ai l'impression qu'il y a tout un vocabulaire. J'écoutais un film qui s'appelle L'Agence et ils ont filmé des réunions de responsables, je crois, à la NPE. Pendant 10 minutes, on ne comprend absolument rien, quoi. Je crois qu'ils essayent d'afficher les objectifs ou... C'est ça? Il y a tout un langage particulier?
Une radiation, ça s'appelle une GL, une gestion de la liste. On entend très rarement le mot radiation parce que je pense que ça renverrait trop de monde à ce que ça signifie, c'est-à-dire à plonger souvent une famille dans la merde, pour dire les choses clairement. Il y a une culture professionnelle très particulière qui est complètement basée sur les abréviations. Quand tu arrives à l'agence, on te donne un petit guide des abréviations, parce que sinon tu t'en sors pas. Et c'est vrai qu'on a une réunion de service hebdomadaire pendant laquelle l'agence est fermée au public. Et au cours de laquelle, alors c'est très descendant comme info, hein, la direction te donne les chiffres qui sont bons, les chiffres qu'il faut remonter, les chiffres qu'il faut descendre, enfin on est... Oui, je pense que c'est un management très privé.
Messieurs, dames, bonjour, merci d'être venus. Nous vous accueillons ici pour une formation qui concerne les métiers de la distribution moderne, les métiers d'employé commercial dans la distribution moderne, ainsi que les métiers de caissière, ou caissier. Peu de personnes connaissent le secteur d'activité de la distribution. Sinon, tout le monde le connaît, puisque tout le monde va faire ses courses. Donc nous, ce qu'on va apprendre sur cette formation, c'est l'envers du décor et comment monter, justement, tout ce qu'il faut pour que le spectacle fonctionne bien, puisque tous les matins, on monte un petit peu le théâtre pour que les clients viennent et puissent, en fin de compte, avoir envie d'acheter. Parce que notre objectif, si on travaille dans la distribution, c'est de faire du chiffre d'affaires.
Alors, pour sortir les gens du fichier, c'est très simple. Il suffit de donner quelques ordres bien placés, qui donc sont jamais donnés par écrit. On range les gens par tranche. Il y a les gens qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique, par exemple, la SS. Il va y avoir les intermittents, il va y avoir les chômeurs longue durée. On les range par tranche. On sort des listes, donc de chacune de ces catégories, on sort quelques centaines de personnes, et il s'agit de les remettre au boulot coûte que coûte, en fait, de leur envoyer des convocations pour des accompagnements, des réunions d'information, des choses de tout acabit. On est déjà à peu près certain qu'il y a 10% de ces personnes qui pourront pas s'y rendre, et ces 10%-là sont radiés purement et simplement. Ensuite, il y a les gens qui, à l'issue de l'accompagnement, vont trouver un petit bout de formation, soit parce que ça les intéresse, soit parce qu'ils sentiront qu'ils sont obligés. Donc eux, ils sortiront également des chiffres du chômage, puisqu'ils passeront en formation, et donc en catégorie 4. Ensuite, toujours pour enlever les gens du fichier, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut, par exemple, prendre le fichier par métier. Alors on va prendre tous les intermittents du spectacle, toutes les personnes qui ont un métier dans le spectacle. On regarde si ces personnes ont le statut d'intermittent, auquel cas on peut pas trop faire grand-chose pour les embêter puisque ce statut existe encore, pour l'instant. Mais si par exemple ces personnes n'ont plus le statut parce que depuis la modification qui a eu lieu il y a 2 ans, si par exemple elles n'ont pas pu faire le nombre de cachets suffisant, Eh bien, à ce moment-là, elles sont inscrites comme comédien, comédienne. Elles n'ont pas le statut d'intermittent. Il est très facile de leur dire « Votre métier n'est pas réaliste sur le marché du travail. Ce n'est pas un métier en tension. Ce n'est pas un métier pour lequel les ACEDIC ont fait remonter un besoin de main-d'œuvre non satisfait. Donc, il faut que vous changiez. Soit ils changent et on les met au boulot, soit ils changent pas et on les radie. Ça fait autant de gens au moins. » Toujours pour écrémer les fichiers, on peut aussi sélectionner sur la durée d'inscription. Donc on fait des listes de chômeurs longue durée. On les convoque en groupe pour voir ce qu'on peut faire pour eux, même si beaucoup de choses et tout le possible a déjà été tenté. Et ces gens, on leur propose des contrats aidés. Et s'ils prennent pas les contrats aidés en question, rebelote, c'est la porte. Et s'ils les prennent, bon bah ça leur fait un contrat à temps partiel pendant 6 mois, durant lesquels ils ne comptent pas, puisqu'ils sont en catégorie 5 et donc pas en catégorie 1.
J'aime bien le geste de ta main avec la toile cirée, parce que ça fait...
voilà, zip.
Le couperet, quoi.
Fait. Bref.
Toi, t'as dû faire ça une fois, sortir des chômeurs des fichiers. C'est quelque chose que, à ton niveau, on te demande de faire parfois.
C'est des choses qu'on peut nous demander de faire et que jusqu'à présent, il est encore possible de refuser. Ça m'est arrivé. Mais par contre, je commence à craindre que ça devienne difficile de refuser à nouveau. Ce qui peut arriver, c'est qu'une quinzaine de dossiers de demandeurs d'emploi soient imprimés sur l'écran et qu'on vous ramène ces 15 personnes, donc sur papier, on vous les ramène pas physiquement, en vous disant de faire quelque chose pour eux parce qu'ils ont des métiers qui ne sont pas des métiers. Je sais pas, un photographe, des métiers de fumiste. Il faudra qu'il confronte la réalité de son métier antérieur au réalisme du bassin d'emploi local. Ça veut dire changer de métier, mon petit bonhomme.
Tu me disais, pour l'instant, j'ai pas eu à radier massivement des gens, des listes. Mm-hmm. Et enfin, la fois où j'ai eu à le faire, j'ai refusé. Mm-hmm. Mais il y a une pression qui est de plus en plus forte, ça on le sait. Qu'est-ce mm-hmm. que tu fais la prochaine fois quand on te le propose, quand on te le demande?
Je pense que je vais rester sur cette ligne de conduite, sauf que ça va devenir intenable, et que quand je dis intenable, ça risque de se traduire par éventuellement des sanctions à mon encontre. C'est assez net. Non, de toute façon, je pense que non, j'y arriverai pas. Supprimer le revenu de remplacement à quelqu'un qui n'est pas une personne qui triche, qui n'est pas une personne qui a manifestement, sciemment cumulé des choses indues, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas radier quelqu'un sur la base de recherches prétendument insuffisantes. Non, je pense que sincèrement, j'y arriverai pas.
Tu feras pas du nettoyage de liste, comme on dit.
Ah non, je pense que je pourrais pas. Et quand ça sera obligatoire, je pense que je changerai de crémerie. Ouais, non, sincèrement. Hein.
Quand on reçoit des gens, on s'interdit de se plaindre parce que nous, on a la chance d'avoir du boulot, mais je suis désolée, il y a aussi des conditions telles que... pourquoi il y a un absentéisme énorme à l'agence? Enfin, énorme, en règle générale, pas ici forcément, mais il y a un absentéisme, des arrêts maladie qui pleuvent, c'est pas par hasard. Au début, t'es pas préparé à ça, en fait. T'as une formation, mais... Ouais, on arrive. Mais finalement, les situations comme ça, je te jure, il y avait des cas, moi, je donnais mon numéro perso. J'arrivais pas à pas prendre la détresse des gens, surtout que tu n'avais pas forcément des solutions. C'est ça, en fait. Ce qui est frustrant, c'est que des fois, tu es obligé de te rendre compte que tu ne peux pas...
Moi, je ne le vis pas comme ça.
...aider la personne.
J'arrive vraiment à prendre une certaine distance par rapport à ça et à faire que ça ne m'affecte pas plus. Sinon, on se pend, quoi.
Sinon, on se pend, dit cet employé de la NPE dans le film qui s'appelle L'Agence. Là, dans cette toute petite séquence, on a les états d'âme hein, que ces salariés, que ces conseillers de la NPE peuvent ressentir, peuvent éprouver. La fille qui dit moi je craquais, je donnais mon numéro perso, et puis celui qui dit j'arrive à mettre une certaine distance, c'est-à-dire que chacun s'arrange comme il peut avec sa conscience. Ce boulot de conseiller de la NPE, ça fait partie de tous ces métiers qui sont au contact avec des détresses humaines, avec des désarrois humains, des proportions gardées. C'est un peu comme, je pense, aux surveillants de prison, par exemple, hein, surveillants pénitentiaires qu'on avait rencontrés, qui sont des gens qui sont pris comme ça entre, voilà, qui sont entre les deux, comme ça. Alors la plupart, bon, ben voilà, s'arrange avec ça. Mais il y a toujours quelque chose quand même qui bouge. Il y a quelque chose qui travaille en profondeur. C'est difficile et c'est douloureux. Et ça nous ressemble profondément aujourd'hui. On continue avec Marie.
Il y a un décret donc relatif au suivi de la recherche d'emploi qui s'applique depuis début août. Il précise aussi la possibilité de faire des sanctions graduées, c'est-à-dire tu cherches pas vraiment trop du travail, mais on va commencer par t'enlever un bout de tes allocs et ensuite un autre bout, et puis ensuite t'auras plus rien du tout. On est vraiment dans l'administration pure et dure, quoi. Modulation de décisions portant sur les radiations et des décisions portant sur le revenu de remplacement. C'est beaucoup de mots pour dire, pour dire radiation finalement. Alors ça va de l'insuffisance de recherche d'emploi qui est vraiment, mais ça dépend vraiment sur qui on tombe. C'est très subjectif comme notion. L'insuffisance de recherche d'emploi, ça dépend du bassin dans lequel le demandeur d'emploi est plongé. Ça dépend de son métier initial. Le nœud du problème, il est là. Et cette circulaire, la Guermin, qui date du 5 septembre, elle entérine aussi le fait que la CEDIC peut suspendre directement le revenu de remplacement, l'allocation. Alors que jusqu'à présent, la NPE était quand même sollicitée, puisque jusqu'à présent, la CEDIC s'occupait de l'administratif, du comptage, des petits sous, point barre. Et nous, conseillers à NPE, on était formés pour réfléchir au métier de la personne, à la formation de la personne, à la prendre en compte la personne dans son intégralité pour la remettre sur le chemin de l'emploi. Il faut savoir que maintenant, on est complètement, de plus en plus, on est squeezé. Jusqu'à présent, les gens osent encore dire les choses. Je sais pas si ça durera. Je pense qu'on va, les gens vont être amenés à tricher de plus en plus, justement, parce que ils sont contraints d'être dans un appareil qui les broie un peu partout aux entournures, donc ils vont forcément dissimuler, je pense. Là, je pense que de plus en plus, on va le contrat aidé va être la solution de toute façon. Ça fait baisser très fort les chiffres du chômage. C'est comme en Allemagne avec le job à un euro. C'est le même principe. Les gens font des actions d'insertion, des boulots d'utilité publique et on leur octroie des allocs un petit peu améliorés. C'est le même principe en France. Là, le contrat aidé actuellement, il y a les contrats d'avenir, les contrats accompagnement emploi qui sont donc issus de la loi Borloo. Et c'est vrai que toutes les personnes qui acceptent ce genre de contrat ne comptent plus dans les statistiques du chômage, puisqu'ils passent en catégorie 5 et ne comptent plus non plus, alors qu'ils ont un contrat en général de mi-temps pour 6 mois.
Même chose pour les stages et les formations.
On en a de plus en plus dans nos fichiers, des gens comme ça, qui ont bien voulu donner de leur temps, de leur personne, pour aller suivre des stages parking, où on leur a dit, il est fait votre CV? Oui, il est fait. Ah, c'est vrai qu'il est bien. Ah, vous savez faire une lettre? Ah oui, un entretien, vous savez faire? Ah bon, aussi, bon. Bon, ben, on a fait le tour. Bon, ben, voilà. Bon. Une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, le mec, il vient pas. Et s'il vient pas, ben là, il est radié. 15 jours au premier manquement, et de 1 à 6 mois pour manquement répété. Donc, en gros, il tombe au RMI. Le souci, c'est que visiblement, les assistantes sociales, commence à avoir des consignes dans le même sens, suivant les départements où elles officient, pour également enlever du fichier RMI les gens qui ne manifesteraient pas une envie débordante de prendre le premier boulot venu, même dans des conditions dignes du Moyen-Âge, parfois. Je pense, moi, que ceux qui refusent un emploi, c'est en général parce que l'emploi en question, il vaut pas tripette.
Plus
6%. 0,5% du taux de 1,6, alors que...
Plus 0,5%.
Ce qui fait un total de 100 000 chômeurs en plus.
Ni bon, ni mauvais.
Le chiffre du chômage et le nombre de chômeurs, on a essayé de traiter ce sujet assez souvent dans cette émission. Là, vous avez compris, on est avec Marie, qui est conseillère à la NPE, et on est du côté, de l'autre côté du guichet. Ils sont 23 000, les agents de la NPE, répartis en 1000 agences. C'est dire si c'est un monde important, et avec un budget annuel de 2,3 milliards d'euros pour 2004, c'est pas n'importe quoi. Il se passe vraiment quelque chose, là, qui en dit long sur notre époque, sur notre société. Et, très peu témoignent. C'est pour ça que ce qu'on entend là a une valeur dans la mesure, encore une fois, où il s'agit d'une, d'une expérience, de l'expérience de quelqu'un qui est au contact, qui est au front, qui est dans les premières lignes sociales, qu'on pourrait appeler. Mais tout ça, on le sait, va s'arranger, puisque depuis quelque temps, on a le CNE, le contrat de nouvelle embauche. Comment c'est vécu au niveau d'une ANPE vue par une conseillère de l'ANPE?
Il y a un nouveau truc magique, c'est le fameux contrat nouvelle embauche. Est-ce que les entreprises ont l'air intéressées par ce contrat? Quels échos vous avez, vous, à la NPE?
Ah bah oui, en général, ils ont vite compris l'intérêt de la chose. Ce qu'on peut en dire, c'est que il est par exemple cumulable avec un autre contrat qui s'appelle le CIE, contrat initiative emploi, qui est un contrat pour permettre l'embauche de personnes en difficulté. Bon, en général, on a vite fait d'avoir un an de chômage et donc d'être éligible à ce type de contrat. Ça permet quoi? Ça permet que l'employeur, il touche des grosses primes pendant un an. Et au bout d'un an et un jour, il dit « Ah, flûte, la période d'essai n'est pas concluante. Ça fait un an et un jour que vous êtes chez nous, mais je m'aperçois que finalement, vous n'êtes pas suffisamment un bon salarié, donc je vais me séparer de vous. » Et c'est effectivement, pendant deux ans, l'employeur peut, du jour au lendemain, dire ciao, vous ne me convenez pas. Ce qui est terrible, c'est que ça va encore complètement casser le droit du travail, parce que quelqu'un qui sera en période d'essai de deux ans, plus personne va oser syndiquer, plus personne va oser, sans même aller jusqu'au fait de syndiquer, sans même aller jusque-là. Le simple fait d'ouvrir sa gueule va devenir impossible. Alors c'était déjà le cas avec les CDD. Les CDD sont déjà obligés de la fermer, les intérimaires n'en parlons pas. Mais là, on est vraiment sur une déconstruction du droit du travail, puisqu'officiellement c'est un CDI. C'est un CDI avec une période d'essai de deux ans. Quel employeur a besoin de deux ans pour s'apercevoir de la fiabilité d'un salarié? Il y avait déjà une période d'essai de un mois renouvelable qui était accessible. Je pense qu'en deux mois, quand on est un bon patron, en général en deux mois, on réalise assez vite si la personne est capable de bosser ou pas. Avant ça, il y a un processus de recrutement. Nous, à NPE, on a des outils à proposer. On peut faire des simulations, des évaluations au milieu de travail qui sont évidemment gratuites pour l'employeur. Le demandeur d'emploi n'est pas payé. L'employeur, il est défrayé 1 ou 2 euros de l'heure pour avoir la personne en stage chez lui. Donc, il y a un tas d'outils qui existent pour permettre de vérifier si le salarié va être un bon salarié ou pas. Donc, une période d'essai de 2 ans, c'est une fumisterie, obligatoirement. Quel que soit le bout par lequel on le prenne, il y a de toute façon beaucoup moins d'offres d'emploi que de chômeurs sur le marché. C'est pour ça aussi que la sanction, c'est vraiment très hypocrite. On dit, il faut que vous repreniez un emploi, il faut que vous soyez actif, réactif. Mais de toute façon, il n'y en a pas assez pour tout le monde.
Enfin, le ministre de l'économie nous l'a encore redit récemment, il y a aussi 500 000 postes vacants, enfin, de boulots qui n'ont pas trouvé de demandeurs, quoi.
Alors moi, j'aimerais vraiment beaucoup demander au ministre de l'économie s'il enverrait ses enfants sur les boulots en question. Parce que les offres non pourvues, en général, sont des boulots absolument éreintants. Si c'est l'hôtellerie, la restauration et la maçonnerie, c'est quand même pas un hasard. En plus, les offres non pourvues, toutes les offres dans l'hôtellerie, restauration et la maçonnerie ne sont pas non pourvues. Il y en a qui trouvent. En général, les employeurs qui ne trouvent pas sont les employeurs qui ne jouent pas le jeu avec leurs salariés. Un employeur qui respecte ses salariés, il trouve des gens. Moi j'ai déjà vu, je pense à une dame qui avait un boulot qualifié, je sais plus trop lequel, et qui vient m'annoncer qu'elle va se faire radier parce qu'elle a retrouvé un CDI. Donc je lui dis super, c'était un CDI de manutentionnaire. J'étais un peu étonnée, je me dis bon, c'est en attendant mieux. Elle me dit non, je vais rester là, ce boulot est moins intéressant que ce que je faisais jusqu'à présent, mais il y a une super ambiance de travail. Donc moi je pense que les employeurs, quand ils jouent le jeu, il arrive qu'ils trouvent quand même, même dans des métiers qu'on dit en tension.
Dites-moi un peu ce qui vous êtes, ce que vous avez fait dans la vie, à quoi vous aspirez, quels sont vos objectifs.
Je suis quelqu'un qui apprend très vite, qui est très motivé. Et maintenant, vu ma situation, vu mon âge, j'ai vraiment envie d'avoir un travail.
Est-ce que vous avez sur l'organisation du travail quelque chose à dire?
Qu'il faut être à 4 heures au niveau du dépôt. J'ai quand même 2 jeunes enfants de 6 et 8 ans. Dans l'année, régulièrement, je peux me débrouiller avec quelqu'un de ma famille pour me faire garder d'honneur mes enfants. Mais il ne faut pas que ce soit toute l'année à 4 heures du matin, quoi. Ça ne sera pas gérant. Mon mari est facteur, donc il commence aussi de bonne heure le matin.
Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Non, Je croise les doigts, c'est tout.
Bon, bah, croisons les doigts, alors.
Ça marche.
Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Tout à l'heure.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Bon, qui c'est qui commence? J'ai rencontré donc Madame Brunet, et c'est extrêmement difficile de faire son choix.
Son mari affecte également, donc son mari est amené à débuter tôt dans la journée. C'est vrai qu'avec des enfants de bas âge, je peux concevoir que c'est pas évident. L'entretien s'est très bien passé, mais je dirais malheureusement c'est le seul hic.
Si c'est pour claquer la moitié de ma paye pour une garde de mes gosses, mais excusez-moi, je préfère rester au chômage. Je suis où, Julie?
Bon, alors, sur toutes les personnes présentes donc ce matin, trois personnes n'ont pas été retenues par les entreprises. Madame Langlois, Madame Mathias et Madame Brunet. Majoritairement, ce sont des problèmes d'incompatibilité d'horaire.
Et est-ce qu'il y a des mouvements de résistance qui commencent à se créer? D'après toi, parce que là, on arrive quand même à un certain extrême avec ces lois Borloo, ces lois Villepin.
Le problème de la NPE, c'est que quand un mouvement de résistance il y a au sein des conseillers, c'est plutôt pour défendre leurs propres acquis. Bon, c'est très bien aussi, il faut aussi que quelqu'un le fasse. Mais c'est très difficile d'arriver à motiver les chômeurs. À un moment, il faut arrêter de les appeler demandeurs d'emploi. On peut aussi appeler un chat un chat. C'est très difficile d'arriver à motiver ensemble les chômeurs et les conseillers. Et ça, c'est un des grands regrets que j'ai, quoi. D'ailleurs, ça arrive qu'en entretien avec les chômeurs, on soit amené à leur dire, mais oui, c'est dégueulasse. Mais bougez-vous. Est-ce que vous êtes allé dans la rue à tel moment? Est-ce que vous avez fait telle manif, telle action? Nous, on se retrouve, on bosse, et c'est nous qui sommes dans la rue pour défendre les droits des chômeurs qui, eux-mêmes, ne les défendent pas. Moi, ça me sidère. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Faites-le remonter à qui de droit? La lassitude, on a essayé, on a vu que ça payait pas, donc on peut peut-être essayer autre chose. On peut peut-être essayer la colère pour voir si ça marche pas mieux.
Je comprends ce qui se passe.
Allô?
Allô?
Allô, j'écoute.
Allô? Allô?
Allô, j'écoute. Oui, monsieur.
Je comprends ce que ressentent et ce que disent les jeunes dans notre pays.
Oui, monsieur.
Allô?
Oui, nous avons des appareils pour la surdité, monsieur.
Est-ce que vous avez des appareils pour la surdité, monsieur?
Oui, monsieur, oui. Nous ne vendons les appareils que sur ordonnance.
J'ai entendu leur demande.
C'est ça, monsieur.
Ni CPE, ni CNE, retrait, retrait, retrait des ordonnances. Ni CPE, ni CNE, retrait, retrait. J'ai entendu leur demande.
Oui, monsieur.
Je propose donc...
Allô, j'écoute.
Allô? Allô?
Allô, j'écoute. Oui, monsieur.
Voilà, merci à tous. C'était donc Marie, à l'époque elle s'appelait Marie, c'était une rediffusion d'une émission du 15 septembre, on y tenait parce que Marie, depuis, cette auditrice qui avait laissé ce message sur le répondeur de la Bastille Suisse, qui avait valu ce reportage, et bien depuis a écrit un livre, Chômage, des secrets bien gardés, aux éditions Jean-Claude Gabzevich, et vous la voyez partout, dans les télés, les radios, elle est absolument partout, elle est partout, et c'est parfait. Parce qu'elle dit des choses extrêmement importantes et qui nourrissent effectivement la colère. Merci donc à Marie-Fabienne Brutus. Merci à Jérémy Bazard de FPP, Fréquence Paris Pluriel. Je ne sais pas pourquoi il faut le remercier, mais nous le faisons du fond du cœur. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis ». Technique aujourd'hui, Olivier Riotor et Christophe Papon. C'est Antoine Chaoyan Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. Assisté de Pascal Le Pascarillo et de Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.